RCF.
Depuis le Moyen-Âge, des millions d'hommes et de femmes se sont engagés sur des chemins de pèlerinage. Qu'ils parcourent une courte distance ou des milliers de kilomètres, ils ont pris un chemin qui les a conduits à la rencontre de Dieu, à la rencontre d'un saint et très souvent à la rencontre d'eux-mêmes. Philippe Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien. À ces hommes et à ces femmes pèlerins, vous consacrez vos recherches et puis aussi un livre publié chez Biblis. C'est un livre qui s'intitule « Pèlerin ». Vous enseignez l'histoire moderne à l'université Lyon 2. Alors on a souvent en tête que l'âge d'or du pèlerinage, c'est le Moyen-Âge. Et vous, vous commencez ce livre au 15e.
Pourquoi donc ? Parce que l'âge d'or, c'est pas le Moyen-Âge. Je suis désolé. Voilà, il faut remettre les pendules à l'heure. La fin du Moyen-Âge est une période très, très troublée. Alors, il y a bien évidemment des pèlerinages, mais les gens ne pèlerinent pas au loin. Le grand âge d'or des pèlerinages au loin, Saint-Jacques de Compostelle, Rome, c'est le 16e et le 17e siècle. Parce que les États sont bien structurés, parce qu'il y a des routes, parce qu'il y a une certaine sécurité, même si le danger est toujours là. Et puis, pour des raisons aussi spirituelles. Puisque à partir du début du XVIe siècle, il y a une fracture du christianisme, d'un côté les protestants, de l'autre côté les catholiques, pour faire simple, et les catholiques vont affirmer leur identité par le pèlerinage. C'est à la fois une démarche spirituelle et puis c'est aussi un marqueur identitaire dans l'espace.
Pourquoi est-ce qu'on a ancré dans les esprits que le pèlerin, il est médiéval ?
Ah, mais parce que dans le pèlerinage, il y a toujours l'idée que pour que la chose soit importante, il faut qu'elle soit ancienne. Et donc, on la remonte au Moyen-Âge. Ce qui fait que, par exemple, pour Saint-Jacques de Compostelle, on a la production de faux qui sont immédiats. C'est-à-dire, on invente un faux livre qui raconte l'histoire du pèlerinage de Charlemagne à Saint-Jacques de Compostelle. Il n'y a jamais mis les pieds. Mais c'est toujours l'idée de reporter dans le passé quelque chose de lointain. C'est-à-dire, on ne va jamais dire « je fais un pèlerinage, c'est nouveau ». On fait un pèlerinage, je réactive ce qui a été très ancien.
RCF. La suite de l'histoire.
On va suivre le parcours que vous nous proposez dans cet ouvrage, Philippe Martin, en commençant par nous intéresser aux lieux et aux hauts lieux de pèlerinage qui sont quelquefois dans la cité elle-même et quelquefois beaucoup plus éloignés. Alors, quels sont les critères, disons, qui font qu'un lieu devient un lieu de pèlerinage ?
Le premier critère, c'est un endroit qui est petit. C'est pas tout un pays, c'est pas toute une région. C'est un endroit qui est petit. C'est un endroit où on est persuadé qu'il y a une communication directe avec le ciel. Bien évidemment, on peut prier n'importe où. Mais le pèlerinage, c'est l'endroit où on a un contact direct avec le ciel. Pourquoi on a un contact direct avec le ciel ? C'est comme dans une cabine téléphonique. Dans une cabine téléphonique, vous aviez, puisqu'il n'y en a quasiment plus, un objet qui vous aidait à communiquer. Et ben, dans le lieu de pèlerinage, vous avez quelque chose qui vous aide à communiquer. Une relique, voilà. Légendaire, une source, un arbre ou quelque chose comme ça. Et ce sont les trois critères, ça, du pèlerinage. Un lieu privilégié, un objet qui vous fait sortir du temps et de l'espace quotidien pour vous faire rentrer dans autre chose. Et trois, la certitude qu'on a un contact avec le ciel.
Et donc, à partir d'un de ces critères, disons, ou peut-être faut-il les avoir
tous ? Il faut
tous,
les trois.
Voilà.
Il faut les trois.
On a un sanctuaire.
Voilà. On a un sanctuaire. Et c'est assez amusant de voir, d'ailleurs, que quelquefois, on a voulu créer des sanctuaires.
Par exemple ?
Par exemple, des sanctuaires à la Vierge Marie au XIXe siècle. Et il y en a beaucoup qui n'ont, vous m'excusez, il faudrait mettre des guillemets, pas marché. Parce que quand vous voulez créer ex nihilo quelque chose, si vous n'avez pas les trois éléments, eh ben ça ne fonctionne pas. Et puis, il y a des sanctuaires qui sont nés spontanément, sans que l'Église ait même l'idée de créer le sanctuaire, lourde. Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'on a un lieu, et puis parce qu'on a cette communication avec le ciel, des apparitions, avec le miracle.
Vous parlez du 19e siècle, mais il y a évidemment des sanctuaires très anciens. Vous citez notamment celui de Rocamadour, qui est un haut lieu spirituel, haut lieu de pèlerinage. Donc, à chaque époque, de nouveaux sanctuaires ont vu le jour.
Exactement. Chaque époque voit de nouveaux sanctuaires. Il y a une légende qu'il faut vraiment tordre le cou, c'est de dire ben, les lieux de pèlerinage reprennent des lieux païens. Bon, c'est vrai dans quelques cas, mais c'est exceptionnel. Généralement, la piété va s'ancrer d'abord parce qu'il y a une légende, parce qu'il y a une histoire. Alors l'histoire, ça peut être une apparition, ça peut être la découverte de reliques comme Racamadour, ça peut être tout simplement des choses tout à fait fantastiques, le saint qui marche, la statue de la Vierge qui apparaît dans un arbre, etc.
Je rappelle que vous vous exprimez là en tant qu'historien, pas en tant que croyant ou recteur de sanctuaire. C'est pour ça que vous parlez de légende.
Exactement. Là, ma position personnelle de Philippe Martin n'a rien à faire ici. Mais quand on dit légende, légendaire, c'est absolument pas péjoratif. C'est tout simplement un récit. Et c'est un récit qui est vivant, qui se transmet et surtout qui se réactualise en permanence. Rocamadour, c'est une grande falaise. Ça peut attirer l'attention des hommes.
Vous parlez de lieu cosmique à Rocamadour.
Voilà. Mais tant qu'on n'y a pas découvert les reliques d'un saint, qu'on va appeler Amadour, ça ne reste qu'une falaise parmi d'autres. Toutes les falaises de France ne sont pas devenues des lieux de pèlerinage. Le site ne suffit pas. Il faut ce légendaire, il faut ce merveilleux.
Toujours associé à un saint.
Voilà. Pourquoi il y a toujours un saint ou la Vierge? Tout simplement parce qu'il faut que le pèlerin ait un rapport personnel. Il faut qu'il ait un interlocuteur. Alors un interlocuteur qui n'est qu'un intercesseur, mais en tout cas qui est cet intermédiaire avec le ciel. Et cet intermédiaire va se révéler de manière très différente. Il y a des époques dans lesquelles c'est la découverte de reliques. Alors là, on est au cours du Moyen-Âge. Au cours du Moyen-Âge, on découvre un squelette et ça donne un pèlerinage. Puis, depuis le 19e siècle, les pèlerinages n'est surtout d'apparition mariale. Mais la Sainte Vierge n'est pas apparue à toutes les époques. C'est un phénomène assez récent, les apparitions mariales.
Voici les rivières que l'on rencontre à partir des cols de Cise et du Somport jusqu'à Saint-Jacques.
Extrait du guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, attribué à Aimery Picot, vers 1140.
Là, prends garde de ne pas boire, ni toi, ni ton cheval, car cette rivière donne la mort. Au cours de notre voyage à Saint-Jacques, nous avons trouvé là deux Navarrais, assis sur la rive, qui aiguisaient leurs couteaux, qui leur servaient à écorcher les montures des pèlerins, qui, ayant bu de cette eau, mouraient. À nos questions, ils répondirent en mentant que cette eau était bonne à boire. Nous en donnâmes donc à boire à nos chevaux et deux d'entre eux immédiatement moururent et furent sur le champ dépiautés.
Alors, vous parlez aussi d'un autre phénomène qui est très intéressant, c'est celui des copies de sanctuaires. Tout le monde ne peut pas se rendre à Lourdes ou à Rocamadour. Et partout dans le monde, il y a des répliques, des copies qui permettent à ceux qui ne pourront pas parcourir les kilomètres voulus de faire ce pèlerinage quand même.
Alors ça, c'est un phénomène qui n'est pas valable que pour Lourdes. Déjà, au 5e siècle, on avait des répliques du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Quand vous alliez à Jérusalem, vous pouviez acheter un plan de construction pour faire reconstruire le Saint-Sépulcre chez vous ou dans votre paroisse. Notre-Dame de Lorette, il y a en Europe à peu près 250 copies de Notre-Dame de Lorette. Alors quant aux copies de Notre-Dame de Lourdes, des milliers. Et ça, c'est le phénomène d'appropriation. Mais toutes les répliques ne sont pas des pèlerinages. Par contre, d'autres deviennent elles-mêmes des pèlerinages qui deviennent autonomes de Lourdes. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait un miracle. Et dès que vous avez un miracle, la fille, si on appelle le pèlerinage original la mère, la fille devient autonome et peut elle-même bourgeonner et créer de nouveaux pèlerinages.
Ces lieux de pèlerinage sont la plupart du temps confiés à des communautés religieuses, à des ordres religieux?
Ah non. Non. Les sanctuaires sont souvent apparus un petit peu spontanément. Et l'Église a toujours été très très prudente vis-à-vis de ça. Parce que l'Église se méfie. Est-ce que c'est des dingues qui ont des idées loufoques? Est-ce que c'est des gens qui sont possédés? Ou est-ce que c'est quelque chose de miraculeux?
Ou des escrocs? Vous parlez d'escrocs aussi, quelquefois?
Ah oui, quand je dis des dingues, ça peut être des escrocs, des manipulateurs. Au 19e siècle, il y a une foule de gens qui ont dit « une source vient de se créer miraculeusement pour la Sainte Vierge, etc. » Et puis, comme par hasard, ils vendaient les bouteilles d'eau. Donc, c'est de l'escroquerie. Donc, l'Église est toujours extrêmement prudente. Et quand elle se rend compte qu'il y a un phénomène qui prend de l'ampleur, va essayer de l'encadrer. Et le meilleur moyen de l'encadrer, en effet, c'est de mettre une communauté religieuse. Mais dans bien des pèlerinages, c'est le curé qui s'en occupe. Et puis, dans un certain nombre de cas, ces mêmes personnes, c'est une petite chapelle dans la campagne, c'est un arbre vers lequel on va aller en procession une fois ou deux dans l'année.
Il y a des lieux de pèlerinage dans le village, et puis, disons, les hauts lieux qui sont ceux-là très éloignés. La démarche est la même pour le pèlerin, quelles que soient les époques?
Quelles que soient les époques, la démarche est la même. Par contre, si on fait des statistiques, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à partir du XVIIIe siècle, l'Église, enfin, l'autorité ecclésiastique, se méfie beaucoup des sanctuaires qui sont complètement perdus. Et donc, on va avoir tendance à fermer un certain nombre de sanctuaires, comme ça, perdus dans la campagne, pour se recentrer vers des sanctuaires qui sont soit contrôlés par des ordres religieux, soit contrôlés par le clergé, donc qui sont à proximité des habitations.
Martin, qu'est-ce qui pousse un homme ou une femme à se mettre en route, à devenir pèlerin ? Quelles sont les motivations qu'on retrouve à peu près toujours ?
Alors, vous avez utilisé un superbe article. Les motivations. Le geste pèlerin, vous avez parfaitement raison, il est pluriel. Alors, la spiritualité, la demande, je suis malade, je veux être soigné, l'argent. Dans un certain nombre de cas, certains pèlerins, jadis, se faisaient payer pour faire des pèlerinages. Le loisir. Mais jadis, aller en pèlerinage, c'était la bonne occasion pour quitter la famille, quitter son métier, etc. Le sport, le challenge. Dans un certain nombre de régions, on disait aux garçons, si tu n'es pas allé à pied au Mont-Saint-Michel, 500 km, tu n'es pas un homme. Et c'est tout ça qui forme le pèlerin.
Mais quand même avec des dominantes en fonction des périodes. C'est-à-dire que la motivation sportive est plus importante au XXe siècle qu'elle ne l'était au XVe.
Je ne dirais pas que c'est en fonction des périodes, c'est en fonction des individus. Ils ont un peu tout ça. Ils ont trois types de motivation. Il y a la motivation qui est la motivation du challenge. Alors on parle de sport aujourd'hui, mais jadis c'était quand même un challenge. Hein,
un défi.
Voilà. Je vais rompre avec tout ce que je suis, c'est un défi. Quand Ignace propose aux premiers jésuites de partir en pèlerinage, c'est ce défi. Vous avez fait des études, vous êtes des hommes superbement bien formés, ben maintenant vous abandonnez tout, vous prenez la route et vous mendiez. C'est un défi. Alors aujourd'hui, le challenge, il va se faire parce que certains sur le chemin de Saint-Jacques, vous les voyez, ils font 60 km par jour en courant, d'autres sont pieds nus, voilà. Mais il y a toujours eu cette notion de défi. Il y a la deuxième dimension, qui est la dimension, si j'utilise des mots actuels, du loisir, de l'altérité. Je vais rencontrer autre chose. L'autre chose, pouvant tout simplement, la cuisine.
C'est-à-dire la cuisine ?
Ah ben,
les spécialités culinaires ?
Le premier guide touristique de l'histoire, c'est un guide pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Et quand vous le lisez, donc on est au début du Moyen-Âge, il n'y a pas du tout de reliques. Mais il y a...
Où est-ce qu'on mange bien ?
Exactement. Dans l'auberge interne. Bah, attendez, quel est le guide principalement vendu aujourd'hui sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle ? Ça s'appelle le Miam Miam Dodo. Hein ? Et bien évidemment, quand vous arrivez dans l'Aubrac, ben vous mangez un aligot. Le chemin de Compostelle aujourd'hui est quand même ponctué d'un certain nombre de choses.
Donc il y a une dimension culturelle quoi aussi,
voilà.
Et puis de découverte.
Voilà, parce qu'il n'y a pas que la nourriture, de découverte de l'eau, de découverte de paysages, de découverte de bâtiments. C'est frappant de voir que à toutes les époques, quand les pèlerins laissent des témoignages, ils parlent comme des touristes. Alors bien sûr des églises. Mais ils ont visité un château, ils ont visité un cabinet de curiosité, le pont Intel est superbe, la campagne elle est très belle, etc., etc. Et puis il y a la troisième dimension, qui est bien évidemment la dimension spirituelle. Mais c'est obligatoirement les trois. Vous pouvez avoir aujourd'hui quelqu'un qui prend le chemin en disant « ouais, je vais courir, etc., c'est le challenge », mais n'empêche, vous le retrouverez à Conques à la messe du soir. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment croyants ? Est-ce qu'ils vont à la messe régulièrement ? Est-ce qu'ils vont aller une fois dans leur vie au moment de leur pèlerinage ? Je ne sais pas. Mais le pèlerinage leur a gagné cette dimension spirituelle.
Extrait du guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, attribué à Emery Picot, vers 1140. Aux alentours des ports de Cise se trouve le Pays Basque, dont la grande ville, Bayonne, est située au bord de la mer, vers le nord. Ce pays, dont la langue est barbare, est boisé, montueux, pauvre en pain, vin et aliments de toutes sortes. Mais on y trouve en consolation des pommes, du cidre et du lait. Dans ce pays, il y a des péagers abominables, à savoir auprès des ports de Cise, dans le village appelé Ostabat, à Saint-Jean et Saint-Michel-Pied-de-Port. Ils méritent l'enfer. Venant au devant des pèlerins avec deux ou trois bâtons, ils extorquent de force un tribut injuste. Et si quelques voyageurs refusent de payer, ils le frappent à coups de bâton et lui arrachent la taxe en l'insultant et en le fouillant jusque dans sa culotte.
Santiago, Santiago.
l'idée peut-être reçue encore une fois du pèlerinage qui consiste essentiellement en une mortification pour racheter ses fautes. Ça peut être vrai, mais ça n'est pas le tout du pèlerinage, notamment au Moyen-Âge.
Ça peut exister, hein. Il y a en 1492 quelqu'un qui part du Danemark et il a commis un certain nombre de péchés. Il a un peu assassiné des gens. Enfin, c'est un sale bonhomme. Il doit se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle et à Rome depuis le Danemark, enchaîné. Je ne sais pas si vous imaginez les milliers de kilomètres qu'il a fait, portant des chaînes aux poignets et aux jambes. Là, c'est vraiment une mortification qui était une mortification spirituelle, mais aussi judiciaire. Donc, cette dimension de mortification, cette dimension purement spirituelle, si elle existe. Mais la masse des pèlerins a quand même ces trois éléments.
Hommes et femmes, ou majoritairement des hommes?
Jusqu'au XVIIIe siècle, c'est majoritairement des hommes. Alors, on a quelques femmes d'ailleurs qui se déguisent en hommes en disant « comme ça, je ne serais pas embêté », mais majoritairement des hommes.
Avec la dimension de l'insécurité aussi qui est à prendre en compte.
Bah, bien évidemment, une femme seule sur les routes, elle risque autant qu'un homme et plus par un certain nombre de dangers qui sont liés à son sexe. Hein. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Sur les grands pèlerinages comme Assise, Rome et Compostelle, vous trouvez une égalité, à peu près, entre les sexes. Moins de femmes toutes seules que les hommes. Il y a des hommes qui vont aller se faire les 2000 kilomètres tout seuls. Et puis, un autre changement par rapport au temps de jadis, c'est qu'au temps de jadis, c'était beaucoup de gens qui avaient moins de 30 ans. Aujourd'hui, les moins de 30 ans restent très importants, mais on a de plus en plus
de jeunes retraités, en pleine forme.
Ah, en pleine forme. Combien de personnes qui, juste en partant de la retraite, se décident « allez hop, je vais à tel ou tel endroit ».
RCF, la suite de l'histoire.
Philippe Martin, est-ce que le milieu social auquel on appartient détermine aussi la probabilité plus ou moins grande de partir en pèlerinage?
Tous les milieux sociaux partent en pèlerinage, mais ne partent pas au même endroit. Je donne dans le livre l'exemple de deux personnes qui habitent des villages presque voisins. Il y en a une, c'est une dame vraiment, elle est au début du XXe siècle et on dit que c'est la famille la plus pauvre du village. Elle n'est jamais allée que dans trois pèlerinages. Et à chaque fois encadré par son curé. Alors elle est allée une fois à Lourdes, et puis autrement les pèlerinages c'est 10 kilomètres autour de chez elle. Et puis dans le village voisin, il y a un monsieur, il est épicier, il est riche, il a des terres, il est engagé politiquement, il est très royaliste, etc. Alors lui, il a fait une dizaine de pèlerinages dans sa vie. Et il y va tout seul. Il y a un pèlerinage qui apparaît à Montlignon, vient de, dans les années 1930, de refaire l'église de Montlignon, il part à Montlignon. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur que son curé en Bretagne avait puni. On lui avait dit « tu iras à Notre-Dame-d'Auray à pied ». On est dans les années 1930. Alors il est allé à pied. Et son fils me racontait que, il y allait suivi par le chauffeur dans la voiture. Donc il marchait un petit peu, de temps en temps il s'arrêtait, le chauffeur tac mettait un petit siège, il s'asseyait, on lui donnait le petit repas, il remontait dans la voiture, il retournait au château. Passait la nuit, le lendemain matin, on le remettait, et il a fait son pèlerinage.
Et ça, vous pensez que ça se passait aussi à la période moderne, ou peut-être même au Moyen-Âge? On pouvait être suivi comme ça par son petit personnel
Les archives aujourd'hui nous montrent que des pauvres gens, dans les pèlerinages, ils apparaissent dans les archives parce qu'ils demandent la charité, ils sont dans les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est les lieux où on va aider ces pèlerins. Mais beaucoup de pèlerins passent par les ancêtres de nos sociétés de voyage. Les agences de voyage, ça existe déjà au Moyen-Âge. Vous avez des agences de voyage qui vous vendent le voyage Jérusalem clé en main, et puis qui vous vendent les excursions, etc. Beaucoup de gens allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle par la route la plus facile, c'est-à-dire le bateau. Bah, ceux-là, ils n'ont pas laissé de traces dans les archives. Tout simplement parce qu'ils payaient aux auberges. Donc, faut pas imaginer les masses de pèlerins uniquement comme des pauvres gens. Les pauvres gens, ils apparaissent aujourd'hui dans les archives, mais vous avez des tas de gens qui ont circulé avec des chevaux, avec des carrosses, etc., et qui ont bien vécu.
Pourquoi disiez-vous que certains deviennent pèlerins pour l'argent? Ils se font payer.
Alors, pendant longtemps, mais ça a quasiment disparu au début du 19e siècle, il y avait la possibilité de donner son pèlerinage. Vous étiez malade, par exemple. Et puis, vous dites à un saint, « Eh bien, si tu me guéris, je te rendrai visite. » Mais vous ne pouvez pas y aller. Ce que vous faites, c'est que vous déchargez de votre pèlerinage sur quelqu'un. C'est une œuvre de miséricorde. Hein. Je vais aller marcher, pas pour moi.
Pour celui qui ne peut pas le faire.
Pour celui qui ne peut pas. C'est très beau. Et puis de là, il y en a certains qui ont dit, je veux bien le faire, mais tu commences à me payer, etc. Et vous avez eu, au XVIIe, XVIIIe et début du XIXe siècle, toute une frange de population, alors on dirait aujourd'hui des pauvres gens, qui ne vivaient que de ça. Vous pouviez leur donner de l'argent ou des vêtements ou de la nourriture, et puis ben ils partaient en pèlerinage pour vous. Alors il y a une cérémonie, hein, et une cérémonie qui se termine avec une formule qui est « je me décharge de mon pèlerinage sur toi », et la personne y allait pour vous. Mais ça existe aujourd'hui, hein, ça existe aujourd'hui. Et à un moment, dans les années 1990, il y a un monsieur comme ça, il part à Saint-Jacques-de-Compostelle, et puis c'était le moment où il y avait quasiment personne qui y allait, et il y a une dame qui lui dit « ben je vais prier pour vous ». Tous les jours, je prie pour vous, mais à une condition. C'est que vous disiez au saint, et elle lui donne une prière. Et l'autre l'a fait. C'était complètement gratuit, bien sûr.
C'est un échange.
Exactement, c'est un échange. Tu vas avoir mon soutien spirituel, et en échange, tu portes ma prière.
Philippe Martin, on a parlé des motivations qui font qu'on devient pèlerin. Mais finalement, est-ce qu'on ne devient pas pèlerin essentiellement à partir du moment où on se met en route ? Les motivations, c'est ce qui, disons,
travail
permet de, voilà, de mobiliser l'énergie. Mais devenir pèlerin, c'est se mettre en route, non ?
Ah, exactement. C'est le moment où je vais être en rupture. En rupture avec mon cadre de vie, avec ma famille, avec mon statut social aussi. Parce que quand je suis sur la route, je ne suis plus professeur d'université ou que sais-je. Je suis simplement un marcheur. Et alors ce départ, pendant très longtemps, a été marqué par une cérémonie. Parce qu'on se méfie toujours de celui qui pourrait partir comme ça pour se défiler. Abandonner des créanciers, abandonner une femme, abandonner une famille, abandonner un emploi, etc. Donc, c'est comme un mariage d'ailleurs. Avant de partir, vous devez le signaler à votre curé. Et le curé, comme on fait des bans pour le mariage, va 3 dimanches avant dire « Monsieur Machin part en pèlerinage ». Et un dimanche, à l'issue de la messe, il va y avoir une cérémonie dans laquelle on remet aux pèlerins des papiers, puisque les papiers d'identité que nous avons sont inventés pour les pèlerins. On lui remet des objets symboliques, un bourdon, un bâton, une besace, etc., en lui donnant le sens matériel et le sens symbolique, et il peut partir. Donc il y a vraiment toute une cérémonie qui fait que le départ en pèlerinage, théoriquement, n'est pas un petit truc à la sauvette.
Ces papiers vont aussi être une sorte de sésame pour lui tout au long de son pèlerinage et vont lui permettre d'être identifié et puis de rassurer peut-être ceux qui le croiseront ou seront amenés à l'accueillir.
Alors, les premiers papiers sont destinés à indiquer que vous êtes en bonne santé, que vous n'êtes pas porteur de la peste. Et puis après, on s'est aperçu que les gens sans domicile, les pauvres, étaient un danger. Et la société de l'époque moderne, à partir du XVIe siècle, a voulu enfermer les pauvres. Vous ne pouviez pas errer, vous ne pouviez pas quêter, etc. Mais comment distinguer un pauvre errant d'un pèlerin ? Donc avoir ces papiers, eh ben, c'est être assuré que quand vous rentrez dans une ville, vous n'allez pas être refoulé, vous n'allez pas être enfermé en prison, envoyé dans un régiment, enfin je ne sais quelle aventure. Et puis ensuite, quand vous êtes rentré dans la ville, vous allez être accueilli par une maison religieuse, un hospitalier, quelqu'un comme ça. Et les papiers vont être aussi le moyen de vous faire héberger gratuitement, de recevoir un repas.
Avec la fameuse crédence aussi ?
Ben c'est ce qui reste pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce fameux papier qu'on fait viser chaque soir, etc. Et qui permet, une fois arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, de prouver que vous avez fait, si vous êtes à pied, au moins 100 km, hein, et d'obtenir l'indulgence.
Une fois qu'on a pris la décision de devenir pèlerin, comment est-ce qu'on choisit le lieu où on part en pèlerinage ?
Première possibilité, c'est une tradition. Certains villages vont systématiquement à tel pèlerinage. C'est un peu le passage obligatoire pour un jeune. Dans les Vosges, par exemple, dans la ville d'Épinal, les garçons vont au Mont-Saint-Michel. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que pendant la guerre de Cent Ans, Épinal, qui était française, et le Mont-Saint-Michel, qui était français, étaient les deux seuls pôles restés français dans le nord de la France, qui était sous contrôle anglais. Donc une espèce de lien spirituel. Et jusqu'au début du XIXe siècle, les garçons allaient là. C'est la tradition. Deuxièmement, c'est parce que vous avez une question, vous avez un problème, et on vous a indiqué où est-ce que vous deviez aller. Alors, il y a des petits rites, il y a des gens qui ont des apparitions dans leurs rêves, ou alors vous allez voir une spécialiste de ça, ce qu'on appelle les tireuses du secret, qui vont vous interroger et tout. Il y a un geste qui a été très fréquent jusqu'au XVIIIe siècle, c'était tordre la serviette. La dame vous donnait une serviette, vous en preniez un bout, elle prenait l'autre bout, et pendant qu'elle vous posait des questions, vous tordiez la serviette de manière à faire des nœuds. Et une fois que tout le paquet de nœuds est fait, elle vous dit « Ah bah alors le nœud là vous indique que vous allez à tel ou tel endroit. »
Donc c'était parfois une bonne surprise et parfois un peu moins. Parce que ça pouvait être beaucoup plus loin que ce qu'on avait envisagé.
Ah oui. Ça pouvait être, voilà. La troisième chose, c'est la mode. On se précipite à Lourdes parce que, et dans mon bouche, mode n'est pas du tout péjoratif, parce que il vient d'avoir des miracles, parce que c'est nouveau.
Parce qu'il y a un chemin de fer qui permet d'y aller.
Parce qu'il y a un chemin de fer qui vient d'y aller, etc. S'il n'y avait pas eu le chemin de fer, en effet, Lourdes n'aurait pas eu le succès qu'il y a eu. C'est tous ces éléments qui font que vous choisissez quelque chose.
Compostelle, c'est par là.
RCF, Véronique Alzieux.
Est-ce qu'on sait, en général, pour combien de temps on part ?
Ah non. On part sans savoir du tout combien de temps on part, parce que bien souvent, sauf si vous passez par une de ces agences de voyage dont on parlait il y a quelque temps, vous allez devoir travailler, vous allez devoir trouver des moyens de transport. Il ne faut pas imaginer que les gens ils marchent 24 heures sur 24. Ils fonctionnent en fonction de l'occasion. Dans tel village, on va me donner du pain si je travaille. Eh ben très bien, j'y vais deux jours, puis je me fais un petit pécule. Tel chariot va pouvoir me faire gagner 100 km, mais m'éloigner un peu de la route. Eh ben je monte dedans. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose un peu par capillarité. Et puis, le chemin, ça devient un rythme de vie. Et certains pèlerins peuvent souffrir de ce qu'on appelle le syndrome de Moitessier. Moitessier, c'est un navigateur qui n'arrivait jamais à rentrer. C'est-à-dire qui ne peuvent pas rentrer. Sur le chemin de Saint-Jacques aujourd'hui, c'est assez frappant de voir les gens qui vont vers Saint-Jacques, et puis ceux qui reviennent. Et certains ne peuvent pas rentrer.
C'est-à-dire qu'on y prend goût ?
On y prend goût. Parce que le mode de vie change, parce qu'on a un statut, parce que tout simplement, c'est la joie d'être dehors, la joie de se sentir bien et tout. J'avais rencontré quelqu'un qui était un monsieur qui vendait du matériel de bureau. Alors vraiment le sédentaire absolu. Et puis à la retraite, au bout de 3 semaines, 1 mois, il se dit qu'il s'ennuie un peu. Il part à Compostelle. Et puis arrivé à Compostelle, il se dit « Oh, c'est trop bête, je vais retourner chez moi à pied ». Puis arrivé dans les Pyrénées, il rencontre 2 jeunes filles qui étaient complètement perdues, qui avaient mal aux pieds, qui étaient complètement en dérive. Il dit « Bah, je vais les accompagner ». Il a vécu 8 ans après sa retraite. Et pendant ces 8 ans, il a passé plus de 6 ans sur le chemin. Il ne pouvait pas rentrer. Il était connu d'ailleurs, on l'appelait Don Pedro. Vous avez eu au XVIIIe siècle un saint, Saint Benoît Labre, qui était comme ça, qui ne pouvait pas rentrer, qui ne pouvait plus dormir dans une maison, etc., parce qu'il était en communion avec la nature, avec ce qu'il était.
Alors aujourd'hui, on ne citera aucune marque, mais enfin le matériel du pèlerin est high-tech. On a des chaussures et des chaussettes anti-ampoule, enfin c'est très 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 au point.
Vous avez même des petits chariots pour éviter de porter votre sac. Vous pouvez au gîte donner votre sac et puis on vous l'amène en voiture à l'étape. Oui, c'est un business.
Au Moyen-Âge, ou disons à partir du 15e siècle, les gens partent avec quoi ?
Ça a toujours été un business. Quand vous allez à Jérusalem au 15e siècle, il faut partir de Venise. C'est là que vous allez embarquer sur les bateaux. Mais il y a des démarcheurs qui viennent attirer les gens en vous disant « Oui, mon bateau, c'est le mieux, etc. etc. » C'est une foire d'empoigne ahurissant. Et les pèlerins nous disent d'ailleurs qu'ils en sont importunés parce que les gens essayent de leur piquer les bagages pour les mettre dans le bateau en disant « Voilà, maintenant, vous êtes obligés de partir avec nous. » Alors, avec quoi partons ? Mais là aussi, ça dépend de l'argent qu'on a. Je raconte dans ce livre l'aventure de quelqu'un qui est parti alors que ses parents ne voulaient pas. Et ses chaussures cassent au bout de 100 km. Il est allé à Saint-Jacques, près de 1000 km, pieds nus. Il raconte, c'est effroyable parce qu'il a quasiment rien sur lui. La pluie lui tombe dessus, etc. Il revient à pied et quand même 300-400 km avant d'arriver chez lui, il y a quelqu'un qui, par charité, lui donne une paire de chaussures. Donc ce garçon a vécu une espèce d'enfer. À l'origine, il voulait rompre avec ses parents. Il a fini religieux, donc il a trouvé quelque chose sur le chemin.
Dites donc, monsieur le guide, ça fait combien d'heures qu'on marche, là ?
2h30.
Et c'est quand qu'on mange ?
D'ici 3/4 d'heure, 1 heure.
Ah non, moi je marche pas 1 heure de plus sans manger, hein.
Vous voulez faire une petite pause ?
Ah oui,
quand même. Ouais.
Les hospices qu'on trouve tout au long d'un chemin de pèlerinage se multiplient essentiellement pour accueillir les pèlerins malades ou ceux qui sont
exactement
souffrants.
Accueillir le pèlerin, c'est une des œuvres de miséricorde, comme visiter les prisonniers, éduquer les gens, etc. Et donc, pendant longtemps, les gens ont accueilli les pèlerins chez eux. C'était assez facile. Et dans les grandes villes, on sait que les gens attendaient au bord du chemin et quand ils voyaient un pèlerin, ils disaient « Viens chez moi, comme on le disait l'autre jour, ça va permettre un échange, une mutualité de prières et tout. » Puis à partir de la fin du Moyen-Âge, on a commencé à se méfier des pèlerins. Comme je le disais déjà, est-ce que c'est un pèlerin, est-ce que c'est un errant, etc. Et donc on a créé des sites, des hôpitaux pour les accueillir. Mais l'hôpital, ce n'est pas le lieu de soins. Jadis, c'est le lieu de soins, c'est l'hôtel Dieu. Voilà, l'hôpital, c'est lieu de renfermement. Et donc, on va créer des hôpitaux parce que c'est un moyen de les contrôler, c'est un moyen de les aider. Alors, qu'est-ce qui l'emporte dans les autorités municipales ? Le contrôle ou l'aide du pèlerin ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose d'essentiel. Et certains de ces grands hôpitaux restent célèbres aujourd'hui. Sur le chemin de Saint-Jacques, il y a l'hôpital d'Aubrac, qui a été construit dans un désert parce que les pèlerins se perdaient. Et non seulement on a construit un lieu d'hébergement des pèlerins, mais en plus on a construit une grande tour et toutes les nuits on sonnait à la cloche pour que les pèlerins puissent se repérer dans ces hauts plateaux et puis venir trouver un abri.
Est-ce qu'il est fréquent qu'on meure pendant le pèlerinage et qu'on n'entende plus jamais parler du pèlerin parce qu'il n'est jamais revenu ?
Est-ce qu'il n'est jamais revenu parce qu'il est mort pendant son pèlerinage ? Est-ce qu'il n'est jamais revenu parce qu'il a changé de vie ? Ça, on ne sait pas trop. Les Espagnols se plaignent beaucoup des jeunes Français au XVIIe siècle qui viennent courtiser les jeunes filles espagnoles. Et oui, mais il y en a qui meurent et certains estiment que c'est un bonheur de mourir en pèlerinage. Et pour beaucoup, au XVIe siècle, le bonheur, c'est d'aller à Jérusalem et de mourir à Jérusalem de manière à y enterrer tout près des lieux de la Passion.
C'est Saint-Jacques, là. C'est là où on devait aller pour le pèlerinage. On est arrivé.
Oui, on est arrivé.
Ouais. Foutreya, Susia, essayez de la faire, on est arrivé, on est à Santiago, on est les plus forts que nous.
Philippe Martin, est-ce qu'on a beaucoup d'archives ou de témoignages de pèlerins qui racontent l'arrivée, enfin, sur le lieu de pèlerinage, après parfois des semaines, des mois, voire des années de route ?
Ah, mais non seulement on a des archives, mais on a encore des tas de gens. Si vous vous appelez Romeu, Romier, quelque chose comme ça, c'est qu'un de vos ancêtres est allé à Rome. Si vous appelez le roi, c'est celui qui, dans un pèlerinage, est le premier à avoir vu Compostelle. Et on a en effet une littérature, et ça depuis le Moyen-Âge, de gens qui racontent les choses. Et arriver sur le lieu de pèlerinage, c'est la transfiguration. C'est la fin de l'effort et puis tous les pèlerins disent il y a une colline et puis on voit de la colline le lieu de sanctuaire. Et alors là, d'ailleurs, normalement, vous devriez vous changer.
Pourquoi ?
Ah ben, vous n'arrivez pas à Compostelle avec vos vieux vêtements pourris sentant la poussière. Théoriquement, vous avez amené dans votre sac, toujours aujourd'hui, enfin si vous voulez faire bien les choses, une tenue propre et vous habiller proprement. Parce que vous allez rencontrer le saint. Vous allez rencontrer le merveilleux.
Il faut être présentable, donc.
Ah bah, vous allez pas y aller, crotter.
Et essentiellement, dans les grands lieux de pèlerinage, la configuration géographique permet d'arriver par le haut ou c'est très variable ?
C'est très variable, ouais. Mais on va toujours trouver...
Une colline, quelque part.
Un banc, une colline, quelque chose comme ça. Hein. Mais tous disent l'impression du lieu.
Avec une forte émotion qui domine.
Oh là là. Il y a un pèlerin de 1531 que j'aime bien, qui est allé à Jérusalem, et il dit quand les chrétiens qui sont avec lui, lui est religieux, et il y a une centaine de personnes avec lui, quand il voit le Saint-Sépulcre, il dit, mais il y en a, ils sont pris littéralement de frénésie, ils rentrent en transe. Et il explique qu'il est obligé d'en prendre un ou deux dans ses bras, parce qu'ils se frappent le front tellement fort sur le sol qu'ils vont se tuer. C'est l'aboutissement, c'est l'apothéose.
Alors qu'est-ce qu'on fait, généralement, quand on arrive ? Est-ce que d'abord on se repose ? On souffle un peu, ou bien on se précipite sur le lieu de pèlerinage, comme vous venez de le décrire là.
On se repose, vous pensez. Là, vous atteignez le climat.
On n'est pas là pour se reposer.
On n'est pas là pour se reposer, là. Ça fait des semaines que vous attendez. Non, non, on y va. Alors, on va faire trois choses. La première chose, c'est un certain nombre de gestes spirituels, religieux. Et tous ces gestes peuvent se résumer en une formule, c'est transfert de puissance. Il faut que je touche l'objet, il faut que je touche la relique, il faut que je l'embrasse. Quand on allait, je dis ça au XVIe siècle, hein. Quand on allait à la Sainte-Baume, autour de Marie-Madeleine, on mettait ses doigts dans les orbites du crâne. Pourquoi ? Parce que c'était l'emplacement des yeux qui avaient vu le Christ. Et puis alors, essayer de toucher l'endroit où le Christ avait touché Marie-Madeleine. On est vraiment dans ce transfert de puissance.
Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des portes usées, des marches usées, des lieux où des milliers, des millions de mains sont passées pour toucher la roche, par exemple.
Bah, regardez à Rome, la statue de Saint-Pierre qui est dans le bas-côté droit de la basilique quand on rentre, le pied n'est plus qu'une boule de bronze. Vous imaginez les millions de doigts qu'ils ont.
De même que la grotte de Lourdes.
Bah, la grotte de Lourdes, le pilier central du portail de Saint-Jacques-de-Compostelle, il a fallu le mettre derrière des grilles blindées parce qu'il était en train de s'effriter tellement les gens le caressaient. Et ce transfert de puissance, je vais essayer d'en garder quelque chose, par exemple, en posant un linge sur la relique et puis ramener quelque chose. La deuxième chose que je fais, c'est connaître le lieu. Me remettre dans le passé, abolir le temps de manière à retrouver ce que la visionnaire a vécu, ce que, etc. Donc, je vais aller voir les lieux où a été Bernadette. Je vais aller au moulin où étaient ses parents. Je vais, voilà, essayer de me replonger dans ce passé.
On peut citer Assise, qui est une ville qui a conservé un peu cet esprit médiéval et on
tout
imagine la vie telle qu'elle pouvait être au temps de Saint-François.
Voilà, donc ça c'est vraiment le deuxième niveau, c'est abolir le temps, rejoindre le passé. Et puis le troisième niveau, ben, c'est un niveau plus prosaïque, c'est comment je me loge, comment je mange, où ramener les souvenirs. Des Sainte Hélène qui invente les pèlerinages à Jérusalem, on a des souvenirs avec des petits escrocs, des petites choses comme ça.
Sainte Hélène qui invente les pèlerinages à Jérusalem, c'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire que pendant les premiers siècles de notre ère, Jérusalem, il n'y a quasiment pas de pèlerinage. Et au IVe siècle, Hélène, qui est la mère de l'empereur Constantin, va à Jérusalem et par un système de vision, redécouvre les lieux de la Passion. Et elle redécouvre les objets de la Passion. Et à ce moment-là, c'est elle qui va commencer à demander à ce que construise une église. Enfin, c'est le début du sépulcre et tout. Et donc, on dit qu'elle invente le pèlerinage. Enfin, elle découvre le pèlerinage. Mais avant Hélène, il y a sans doute des chrétiens qui viennent un petit peu sur le lieu de la Passion, mais il n'y a quasiment rien. Pendant près de trois siècles, il n'y a quasiment rien eu à Jérusalem. Et dès qu'Hélène fait ça, eh ben, il y a des boutiques de souvenirs qui vous vendent des pseudo-morceaux de la croix, des pseudo-clous du Christ, etc. Dès le IVe siècle, on a des petits futés qui essayent de profiter des pèlerins.
Et de faire du business. Est-ce que c'est aussi un lieu, l'aboutissement du pèlerinage, où donc convergent des milliers de personnes venant des quatre coins du monde, peut-être, et où, justement, on peut rencontrer ceux qu'on n'aurait jamais croisés ailleurs, ceux qui amènent avec eux une autre culture, une autre manière de parler, de manger, de vivre.
Je prendrai deux exemples. Aujourd'hui, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, il y a beaucoup de Coréens. La Corée est un pays dans lequel le christianisme se porte bien et le catholicisme se porte bien. Et beaucoup de Coréens viennent, en particulier juste après leur mariage, faire un bout du chemin de Saint-Jacques. Donc c'est un moyen de découvrir un christianisme qu'on n'aurait pas l'idée de voir. Mais un autre type de rencontre. Si vous allez à Lourdes lors des grands pèlerinages, rencontrez tous ces gens malades, tous ces hospitaliers et tout, c'est aussi un autre moyen de rencontrer l'autre et tout. Il y a quelque temps, je vous parlais de Don Louvent, ce moine et tout, qui était à Jérusalem. Et il est parti de sa Lorraine en 1531, alors en se disant qu'il allait être massacré, que les musulmans, c'était vraiment des sales bons hommes, qu'il allait être découpé en tranches, enfin bref, tous les fantasmes. Puis il arrive à Jérusalem et il se met à prier. Puis il regarde autour de lui, puis il voit un peu orthodoxe qui prie, puis il se dit, il est pas mal cet homme, il prie bien. Il est prêtre, puis il a un fils. Puis son fils, il est bien comme fils. Puis il regarde de l'autre côté, puis il voit un musulman. Puis il dit, ah, il est pas mal le musulman, il prie bien et tout. Et là, une phrase, il dit, Dieu reconnaîtra celui qui est vraiment croyant. Ben, je crois que pour un homme qui est parti avec des idées comme ça, tout à fait préconçues, en arriver là en se disant, après l'effort, peut-être que le musulman, peut-être que l'orthodoxe, donc les hérétiques, peut-être qu'ils ont aussi quelque chose qui participe à quelque chose, c'est un très très grand pas, hein.
« RCF, la suite de l'histoire.
Vous voulez dire que le pèlerinage, c'est une expérience à différents niveaux, humains, spirituels, physiques, mais aussi cette expérience de l'autre, de l'étranger, celui qui a priori ne nous est pas familier.
Exactement. Le pèlerinage, normalement, c'est une expérience qui va transformer. Dans le livre, je cite juste à la fin un passage de quelqu'un qui a fait le chemin de Saint-Jacques dans les années 90, s'appelle Jacques Cloutot, qui a écrit un livre qui, pour moi, est très beau. Il est un beau chemin d'épines et d'étoiles. Et je voudrais juste vous lire la dernière phrase de son livre, qui est la dernière aussi du mien. « Je ne peux en dire plus. Je ne suis plus un pèlerin en marche, mais je possède désormais, au fond de moi, la richesse du silence et la certitude de la lumière. » Et je crois que ça, quelle que soit la raison pour laquelle la personne a fait le pèlerinage, quel que soit ce qu'il a fait, il ne peut pas en revenir indemne. Il en revient marqué.
Ça peut être aussi ça, le miracle. Parfois, on y va pour demander quelque chose. Alors, ça peut être exaucé ou pas, mais on ne revient jamais, on en reparlera plus précisément demain, mais exactement comme on est parti, c'est pas possible.
Ah, je pense que s'il y a du miracle à Lourdes, c'est pas les 69 miracles aujourd'hui reconnus, c'est ça. C'est le fait que les gens y sont allés, y sont revenus et ont changé.
Combien de temps est-ce qu'on reste en général ?
Peu de temps. Très peu de temps. L'endroit où on reste le plus longtemps, c'est Jérusalem, mais c'est à peine 10 jours, 10-15 jours.
Pourquoi ? Hein ?
Ah ben parce que ça coûte très cher, parce que sur place ça coûte très cher, parce que sur place il y a des problèmes d'approvisionnement et problèmes, etc.
Quelles que soient les époques.
Vous allez à Saint-Jacques-de-Compostelle, vous mettez, si vous partez de France, un mois et demi, on va dire, pour y arriver à pied, vous restez combien de temps ? Une journée ? Et vous repartez. Est-ce que c'est le but qui est important ? Ou est-ce que c'est... Alors, je ne vais pas vous répondre, j'ai juste cité Victor Hugo. C'est une sainte loi que ce recul profond. Les hommes en travail sont grands des pas qu'ils font. Leur destination, c'est d'aller portant l'arche. Ce n'est pas de toucher le but, c'est d'être en marche. Et c'est ça le pèlerinage. Pas besoin de rester des heures. Si vous voulez faire un pèlerinage très spirituel, oui, vous allez communier avec le saint, avec la Vierge, sur le lieu de pèlerinage. Mais vous l'avez fait depuis un mois et demi. Si vous êtes allé à Saint-Jacques-de-Compostelle, vous avez prié avec les pieds. Certains parlent de la prière des pieds. Vous avez prié avec des paroles. Vous êtes allé à la messe. Vous avez simplement regardé. Vous avez été en communion. Ben voilà, on peut rentrer maintenant.
Martin, est-ce qu'on accueille le pèlerin qui est de retour à peu près de la même manière qu'on a marqué son départ ?
Alors, votre question est importante parce que généralement, quand on fait des livres sur les pèlerinages, il est arrivé et on s'arrête là. Voilà. Or, la route de retour est très importante. La route de retour est importante et le retour du pèlerin est important. Alors, comment est-il accueilli ? Eh bien, ça dépend. Il y en a qui reviennent chez eux. Pas que tout le monde les a oubliés, mais un petit peu dans l'indifférence et tout. Et puis, généralement, eh bien, si tout s'est bien passé, c'est-à-dire s'il rentre vivant, il est très, très bien accueilli. Et on le disait l'autre jour, on va par exemple changer de nom. Hein ? Il a été le premier à avoir le sanctuaire de Compostelle, donc on l'appelle le roi. Vous êtes allé à Rome, on vous avait appelé Romeux, Romieux, ou quelque chose comme ça. Donc ça me reste quelque chose de fondamental. Et du coup, vous n'êtes plus dans la société habituelle exactement comme les autres.
C'est-à-dire qu'il y a une estime à votre égard un peu différente ?
Oui. Ça, on le voit bien, parce que pendant très longtemps, on gardait les reliques du pèlerin. On a, de moins en moins maintenant, mais on avait une fierté de montrer les emblèmes, les petites images, si vous voulez, que le pèlerin avait ramené. On gardait les vêtements du pèlerin, le bourdon du pèlerin, etc., qui était peut-être votre arrière-grand-père. Quelquefois, on vous demande de bénir la cloche du village. Certaines des cloches de village ont sur le bronze des petits enseignes de pèlerinage, des petits badges, si vous voulez, qu'on va mettre sur la cloche parce que c'est un moyen de prestige et de rester encore dans la communauté.
Alors, est-ce qu'il est plus prestigieux d'être allé à Jérusalem que d'être allé au Mont-Saint-Michel ou à Sainte-Anne-d'Auray ?
Ah ben, ça dépend. On parlait l'autre jour des habitants d'Épinal qui vont au Mont-Saint-Michel. Ah ben là, c'est nécessaire d'aller au Mont-Saint-Michel. Et vous êtes à Sainte-Anne-d'Auray, tout le monde s'en fiche. Voilà. Ça dépend vraiment de la communauté dans laquelle vous revenez et tout.
Quand on revient, on n'est plus tout à fait celui qu'on était également vis-à-vis de la communauté.
Alors, si vous voulez vraiment avoir gagné un pèlerinage un peu spirituel, il ne s'agit pas de l'acquérir. On vous le donne, ce prestige. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes plus exactement le même, d'où le fait que, c'est encore valable aujourd'hui, vous restez en groupe. Il y a des confréries partout qui regroupent les anciens pèlerins. Et aujourd'hui, le nombre d'associations jacquaires, de gens qui sont allés faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, ou qui vont y aller, qui parlent « c'était le bon temps, je l'ai fait il y a 10 ans », ou qui donnent des nouvelles au petit jeune qui va partir. Pourquoi ils le font ? Est-ce qu'ils le font par piété ? Peut-être. Est-ce qu'ils le font tout simplement parce que c'était le bon temps, on a un passé commun, donc on se retrouve pour faire des petits banquets, sans doute. Et puis, comme on le dit depuis quelques jours, parce que c'est tout ça, parce que le pèlerinage, c'est à la fois de l'humain et du spirituel.
Peut-être juste un mot quand même sur le chemin de retour. On revient par la même route que celle qu'on a empruntée pour y aller ? Ou bien l'idée, c'est de rentrer le plus vite possible ?
Ça dépend. Tout est possible. On peut rentrer par le même chemin. Voilà. Et puis, souvent, on prend une autre route parce que ça permet de visiter d'autres sanctuaires, d'autres lieux. Alors maintenant, il y a des passages qui sont obligés. Hein. Si vous allez à Saint-Jacques-de-Compostelle, passer par Roncevaux à aller ou au retour, c'est obligé. Il y a quand même peu de col dans les Alpes. Si vous allez à Rome, passer le Brenner, c'est nécessaire. Il n'y a pas beaucoup de col non plus dans les Alpes. Mais autrement, non, les gens sont totalement libres. L'idée qu'on a aujourd'hui, qu'il y a une route pour Compostelle, pour Rome, etc., c'est une vue de l'esprit. Il ne faut pas imaginer le pèlerinage comme des routes, il faut imaginer le pèlerinage comme des lieux qui sont incontournables. Le Puy est incontournable, Aubrac est incontournable, Roncevaux est incontournable, Conques est incontournable. Mais entre ces points, les gens y vivent leur vie. Donc le chemin du retour se fait un petit peu au bon vouloir de chacun. Aujourd'hui, les choses sont très différentes parce que si vous allez à Rome, à Assise, à Compostelle, vous avez fait le chemin à pied, vous restez une journée ou deux, vous reprenez votre train et ce qui vous a demandé un mois et demi prend même pas une journée.
C'est beau.
Attention, il y a quand même encore 800 km. Allez, on y va.
Il y a combien encore ?
800.
C'est quand même, hein ? C'est pas rien.
Alors justement, Philippe Martin, aujourd'hui, il semblerait que les pèlerinages, en tout cas la route qui était jusqu'à présent une route de pèlerinage, se porte très bien. Compostelle, évidemment, est l'exemple incontournable, quasiment abandonné pendant quelques décennies ou siècles, et qui aujourd'hui connaît un succès absolument phénoménal.
Ah ben, Compostelle, la route a été quasiment oubliée entre le 19e et le 20e siècle. Les gens qui y allaient étaient vraiment vus comme des zombies. Dans les années 1980, ça revient. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de tellement important que les gens qui veulent un petit peu de tranquillité partent plutôt à Assise ou partent à Rome. Et puis, il y a encore les puristes qui considèrent qu'Assise ou Rome, c'est un peu trop couru. Donc, ils partent à pied à Jérusalem. Alors, pourquoi ? La grande sociologue Danielle Hervieux-Léger dit qu'aujourd'hui, les deux types de croyants qui sont les croyants véritablement en plein essor, ce sont les convertis et les pèlerins. C'est-à-dire le pèlerin, celui qui, dans sa démarche de croyant, accepte de rompre quelque chose pour connaître autre chose. Donc ça est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et puis, on est une société qui veut une société qui se dit moderne, déchristianisée, etc. etc. Il n'y a jamais eu plus de spirituel qu'aujourd'hui. Et donc, aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est, mais on le disait au début de nos entretiens, c'est à la fois un challenge, c'est peut-être une quête spirituelle, etc. Combien y a de gens qui partent à Saint-Jacques et puis qui vous disent « je dois faire le point avec moi-même ». Bon, puis que vous allez retrouver quand même à la messe à Compostelle. Alors, je ne suis pas persuadé qu'une fois rentrés, ils vont retourner à la messe et que les églises vont se remplir de pèlerins. Mais quelque part, pendant un moment, il s'est passé quelque chose.
Et ce qui revient également très souvent, c'est le désir de rompre avec le rythme frénétique de nos vies citadines, de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il faut s'arrêter, mais alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on s'arrête en marchant, en se mettant en route.
Mais justement, parce que se mettre en route, c'est, on le disait l'autre jour, abandonner son statut, abandonner la facilité, c'est quelque part se mettre en danger. Pas un danger.
C'est être dépouillé, quoi.
Exactement. Et là, on retrouve le sens premier du pèlerinage, et on retrouve une spiritualité qui est une spiritualité assez profonde, y compris chez des gens qui ne revendiquent pas cette spiritualité. Mais oui, je crois qu'à l'heure actuelle, le pèlerinage fonctionne bien pour ça. Et sans aller aussi loin, le pèlerinage des étudiants de Paris à Chartres, par exemple, le pèlerinage en Lorraine pour aller à Domrémy. Et c'est ensuite le pèlerinage aussi un élément qui est un élément identitaire. Vous avez à l'heure actuelle de plus en plus de pèlerinages qui se font non pas seuls, non pas en groupe, mais en groupe très très spécialisé. Les gens du voyage au Sainte-Marie de la Mer, les militaires à Lourdes.
Les pères de famille à Cotignac.
Voilà, les Italiens à tel endroit, les Espagnols à tel endroit, etc., etc. Vous avez une revendication identitaire, le fait de se ressourcer en quelque sorte.
Je pense que c'est le voyage qui a changé le plus de choses en moi. Il m'est arrivé de marcher vers Assise, même parfois de courir vers Assise, ça c'était les bons jours. Il y a des jours aussi où j'ai rampé vers Assise, je me suis traîné vers Assise, voilà, ça n'a pas été un voyage facile. Justement parce que ça a été le plus difficile, ce voyage a modifié ma capacité d'aimer.
Sur le chemin, on découvre la Providence d'une manière étonnante. Ça aide à avoir la conviction qu'on est aimé.
Dans le Nazareth ancien, on marchait, vraiment on avait l'impression qu'on pouvait la voir aller à la fontaine. Ça a vraiment permis de visualiser sa vie avec Joseph, avec l'enfant petit.
RCF, Véronique Alzieu.
Philippe Martin, est-ce que le catholicisme est la religion des pèlerinages ?
Oh, bien sûr que non, bien sûr que non. Le catholicisme est une religion du pèlerinage, mais j'allais dire quasiment toutes les religions ont des pèlerinages. Et cette pulsion dont on vient de parler, c'est-à-dire d'un renouveau, c'est quelque chose qui touche toutes les religions. Mais au début du XXe siècle, il y avait à peine 10 à 20 000 personnes qui se rendaient à la Mecque, au pèlerinage. Et aujourd'hui, c'est des centaines de milliers de personnes. Et aujourd'hui, la Mecque est aussi un grand aéroport international. Il y a un des plus grands centres commerciaux du monde qui est construit juste à côté de la Kaaba. C'est-à-dire, vous avez exactement le même phénomène. Dans la falaise de Bandiagara, c'est en Afrique, vous avez à nouveau un pèlerinage qui se passe tous les 7 ans, qui va animer les populations. Donc, vous avez, à l'heure actuelle, cette pulsion qui est la pulsion de « je change ma vie, je fais une pause, j'essaye de retrouver un peu du sens à ma vie, le sens du sacré, mon propre sens », c'est quelque chose qui est valable dans quasiment toutes les religions.
Puis un autre phénomène qui est très intéressant, c'est ce que ça suscite et ce que ça a suscité sur le plan artistique, en termes de musique, de littérature, d'art, sous toutes ses formes. Des films, évidemment, aujourd'hui.
Ah ben, aujourd'hui, le pèlerinage devient quelque chose d'un petit peu essentiel. On parlait l'autre jour du business autour. Mais vous avez qu'à voir l'énorme littérature de souvenirs de pèlerinage. Toute personne, alors soit essaye de faire un livre, soit fait un livre pour ses amis, de blogs sur les pèlerinages, de films, qui peuvent être des films un petit peu humoristiques.
Saint-Jacques-la-Mecque.
Saint-Jacques-la-Mecque,
voilà. De Colin
Serrault. Et puis d'autres films qui sont comme The Way avec Martin Sheen, où là c'est quand même beaucoup plus une démarche spirituelle et tout. Le pèlerinage, c'est véritablement le phénomène religieux, le phénomène spirituel de notre 21e siècle.
Un très grand merci Philippe Martin de nous avoir donc parlé de ce phénomène pèlerin et pèlerinage. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université Lyon 2 et que vous dirigez l'Institut supérieur d'études des religions et de la laïcité. Vous êtes donc l'auteur aux éditions Biblis d'un livre qui s'intitule « Pèlerin du 15e au 21e siècle ». Merci. Dans ces émissions, vous avez pu entendre des extraits du film de Colin Serrault, Saint-Jacques-la-Mecque, ainsi que des extraits de la bande originale du film The Way de Emilio Estevez. Merci à Renaud Vol pour la lecture des textes et à Philippe Faure pour la réalisation technique.